Bonjour à tous. Et oui, ils retournèrent dans la joie alors que leur Seigneur était parti. C'est assez impressionnant. Mais d'habitude, l'ascension, c'est quoi? Souvent, c'est aïe, 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 est-ce que je vais avoir mon RTT pour prendre le vendredi, avoir 4 jours? Je vous propose une autre. Est-ce qu'on peut m'envoyer l'image? Voilà, je vous propose une autre image de la chose. Ce que la Bible nous dit à propos de l'ascension, c'est qu'il est monté au ciel. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui fait interférence. J'ose pas dire que c'est Claude, parce qu'il est en face de moi. Hein? Dans le symbole des apôtres, qui est un écrit, vous savez, je crois en Dieu, etc., c'est par ces mots qu'on peut penser que les premiers chrétiens ont voulu surligner ce fait. Il est monté au ciel, c'était un acte de foi. Pourtant, il y a seulement 5 versets dans la Bible qui parlent de l'ascension. Il y en a un 6e, mais c'est à la fin de Marc 16, et tout le monde discute sur est-ce que Marc, à partir du 16, à partir du verset 9, ça fait partie de Marc ou pas, donc on va pas discuter de ça pendant, on laisse ça aux spécialistes. On prend donc ces 5 versets. Il veut toujours pas fonctionner. Si, ça y est, vous l'avez. Par la suite, il les emmena hors de la ville, jusqu'aux environs de Béthanie, et là, élevant les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. On peut remarquer déjà une chose, c'est qu'au moment où il les quitte, il les bénit. C'est bien. C'est le dernier geste de Jésus sur la terre avec ses disciples, c'est un geste de bénédiction. Le deuxième texte se trouve dans Actes. Voilà, merci. Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » L'auteur de ce passage est Luc, et c'est dans Actes qu'il nous le dit. « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qui s'étaient choisis comme apôtres. » Très clairement, Luc nous dit, voilà, j'ai écrit la bonne nouvelle de Jésus-Christ et maintenant j'écris ce que Jésus continue à faire. Je dirais l'évangile, la suite. Jésus est resté avec ses disciples. Étienne nous l'a dit. Merci pour ton introduction, Étienne. C'était super parce que tu m'as déblayé le terrain. Il a dit qu'il était resté 40 jours. Et pendant ces 40 jours, la Bible nous dit qu'il a instruit ses apôtres, il leur a donné des instructions, et on n'a rien sur les instructions qu'il leur a données. Voilà, il leur a donné des instructions. La première, il y en a. Alors, est-ce que vous en avez quelques-unes qui vous viennent en tête de ces instructions? Parce qu'on en a à deux endroits. En allant, faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et puis vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Voilà. Et c'est là. En fait, c'est une seule instruction. Vous allez devoir faire des disciples. Vous allez devoir annoncer la bonne nouvelle. Et puis, très certainement, il a dû les enseigner, comme on voit avec les deux disciples d'Emmaüs. Il leur a enseigné tout ce qui était dit dans la parole de lui. J'imagine très bien Jésus reprenant, je lis en ce moment un livre sur Ésaïe 53, Jésus reprenant Ésaïe 53 et leur disant, regardez, essayez de comprendre maintenant. Et comme nous a dit Étienne ce matin, mais il leur a promis, vous n'allez pas tout comprendre tout de suite, mais le Saint-Esprit va vous éclairer complètement. Donc voici que Jésus, l'évangile continue. Mais ça me pose un problème, moi. Parce que l'évangile continue avec Luc, mais avec Jean, ça marche toujours pas. Quand je fais ça, voilà. Avec Jean, ouais, c'est plus haut qu'il faut que je fasse. Jean nous dit, quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Il pencha la tête et rendit l'esprit. Qu'est-ce qui est accompli? Je ne suis pas allé chercher, j'ai trouvé quelque chose. Dominique Angers, un théologien, considérait le sens théologique de la croix dans toute sa richesse, c'est-à-dire toutes les facettes bibliques et toutes les conséquences spirituelles de la mort de Christ, c'est se pencher sur ce qui a vraiment été accompli du point de vue de Dieu, par la crucifixion et la résurrection qui ne peut en être dissociée de notre Sauveur. Sont inclus les concepts de rédemption, d'inauguration de la nouvelle alliance, de victoire sur Satan, d'expiation, de propitiation, de paiement d'une rançon, de substitution pénale, de pardon, de justification, ce qui veut dire qu'on est déclaré juste, de réconciliation et ainsi de suite. Quand on lit et qu'on voit les textes de Jean et celui de Luc, il y a une tension entre les deux. D'un côté, du point de vue de Dieu, tout est déjà accompli à la croix. De l'autre, à l'époque, encore aujourd'hui, si je vous dis, est-ce que tous les élus sont sauvés? Alors à l'époque, c'était évident, puisque 10 jours plus tard, il y allait en avoir 3 000 qui allaient rentrer dans l'Église, mais encore aujourd'hui, tous les élus ne sont pas sauvés. Il y a encore des gens à venir. Donc, d'un côté, tout est accompli. D'un autre côté, nous voyons qu'il y a encore des choses qui doivent se faire. Sinon, nous n'aurions pas reçu cet ordre de témoigner. Cependant, le Père, en décidant d'enlever dans la gloire Jésus-Christ, montre que ce dernier avait achevé son œuvre sur la terre. Psaume 110, verset 1, je crois qu'on en a déjà parlé aujourd'hui. Déclaration de l'Éternel, il dit à mon Seigneur, un impératif, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis à terre sous tes pieds. On peut comprendre avec ceci que l'ascension est le début de l'œuvre de Jésus au ciel. Et selon 3 points, comme prophète, comme sacrificateur et comme roi. Je souhaite rappeler que, comme prophète, il avait été reconnu comme tel sur la terre. Je vous rappellerai simplement la prédication qu'on a eue, je crois que c'était le jour de Pâques, quand Jésus dit « Marie », qu'est-ce que Marie répond ? Rabouni, ce qui veut dire maître. Elle le reconnaît comme un maître, ce qui veut dire que du côté de comme un prophète. Il a été reconnu sacrificateur. Vous allez me dire, là, on coince. Il a été reconnu sacrificateur. Alors, il y avait quelque chose de très particulier pour les sacrificateurs. Quand on devait devenir souverain sacrificateur, un fils d'Aaron, qui théoriquement était l'ancien souverain sacrificateur, vous l'avez. De la tête aux pieds, alors ça devait être fait d'une manière, c'est écrit dans Lévitique. Si vous aimez les livres simples, lisez Lévitique. Et là, il y a un sacrificateur qui a plongé, au moins un fils d'Aaron qui a plongé Jésus dans l'eau, c'est Jean-Baptiste. Et en même temps, il a mis sur Jésus le fait qu'il était le sacrifice. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, et comme roi, Jésus-Christ a été reconnu comme roi par Pierre, selon une formule qui était une formule royale à l'époque. Tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Souvent, on se dit, tiens, là, il le reconnaît comme Dieu. Les commentateurs disent non, il le reconnaît comme roi. Par contre, c'est un grand incrédule qui le reconnaît comme Dieu. C'est Thomas. Vous voyez, il voit Jésus après la résurrection et il fait quelque chose qu'aucun roi ne peut faire, qu'aucun juif n'avait l'idée de faire à l'époque. Il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il prononce le nom de Dieu. On ne prononçait jamais le nom de Dieu pour ne pas le prononcer en vain. Quand on arrivait sur le nom de Dieu, on disait « Seigneur ». Donc, sur la terre, il est déjà reconnu, mais si nous prenons maintenant, merci, si nous prenons Jésus comme prophète au ciel, il est la parole de Dieu qui s'est incarnée et qui est venue habiter parmi nous. Jésus va envoyer le Saint-Esprit, on vous l'a dit aussi. Jésus va permettre que le Saint-Esprit inspire les écrits canoniques du Nouveau Testament, la parole de Dieu. Jésus va permettre que par le Saint-Esprit, la parole de Dieu soit prêchée. Je vous donnerai une puissance. Jésus va permettre que par le Saint-Esprit, la parole de Dieu prêché amène les pécheurs à croire en Christ et à être sauvés par grâce. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus va permettre que par le Saint-Esprit, notre intelligence soit illuminée quand nous lisons la parole de Dieu. Il y a quelques semaines, Andy nous disait, nous les chrétiens, on devient plus intelligent parce que on lit la parole de Dieu et ça nous oblige à réfléchir. C'est pas faux. Et dernièrement, Jésus va permettre que le ministère de la parole de Dieu et du Saint-Esprit nous amène à la sanctification. Et là, je vais prendre un peu un détail. La sanctification, c'était le truc dont il faut pas parler dans une prédication. Tout le monde, ça y est. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Vous avez reconnu Romains 12, 1 et 2. Ici, ce que nous avons, offrir nos corps comme un sacrifice vivant, et je reprends Lévitique, c'est un holocauste. Offrir nos corps, ce qu'on demande, c'est qu'il n'y ait plus rien après le sacrifice. Nous devons soumettre à Christ nos pensées. Nous devons arriver au point où c'est lui qui prend la place. La sanctification nous engage donc principalement à la lumière de ce verset, à mesurer l'écart qu'il y a entre la volonté de Dieu et la nôtre. Jacques Fourniol nous en a parlé, la veuve de Sarepta. Je crois que oui. Et il nous a lié ça avec l'Holocauste aussi d'ailleurs. La veuve de Sarepta, elle a commencé par la priorité de Dieu. Hein? J'ai ici une citation de John Piper qui nous dit « Le Saint-Esprit ne nous transforme pas en s'attaquant directement à nos mauvaises habitudes, mais en nous portant à admirer Jésus-Christ à tel point que nos péchés nous paraissent étranges et choquants. » C'est dans un livre qui se trouvait ici, « Dieu et l'Évangile ». Il se trouvait pendant un temps, ceux qui l'ont recherché, je vous dirai pas la page, je l'ai là, mais ça vous permettra de relire le livre. Matthieu Caron, au sujet du péché, dit que nous ne vivons pas la santé tant que nous sommes sur cette terre, mais la guérison. Nous sommes malades de dépravation totale. Un jour, Henri Blocher nous prêchait sur l'espérance. Et en présentant sa prédication, il nous dit, parce que c'est un homme très organisé, donc il nous a présenté les trois points de sa prédication, et donc il nous a dit, numéro 2, j'ai l'espérance de la mort. Là, vous savez, vous avez beau de savoir que c'est un théologien qui avait à l'époque 82 ou 83 ans, qu'il avait fait ses classes, que c'est un homme sérieux, vous vous dites, d'ailleurs, j'ai tout oublié de la prédication, sauf ça. Je l'attendais là. Et voilà quelle a été sa réponse. Enfin, j'en aurais fini avec le péché. Voilà ce qu'un homme qui a écrit des bouquins énormes, lui, il en était encore là. J'ai l'espérance de la mort parce qu'enfin, j'en aurai fini avec le péché. Alors, à ce point, on se rend compte que si on n'avait que Jésus comme prophète en haut, ben, on serait bien malheureux parce qu'on serait là en train de se dire « Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa ». Ça veut dire « c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute ». C'est pourquoi nous avions besoin au ciel qu'il y ait aussi un Jésus qui soit souverain sacrificateur, notre souverain sacrificateur. 1 Corinthiens 5, 7. Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle, puisque, en fait, vous êtes sans levain, car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, Christ lui-même. Dans d'autres versions, c'est Christ, notre Pâque, a été immolé. Il a pénétré, c'est dans 1 Corinthiens 5, 7. Hébreux 9, 12 nous dit, il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang de bouc ou de veau, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. Et enfin, Hébreux 7, 25, voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Christ nous a libérés de l'esclavage du péché, à l'image des Israélites qui avaient été sauvés de l'esclavage de l'Égypte par le sang de l'agneau. Exode 12. Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous avons été libérés du péché. Ces Égyptiens que vous avez vus, vous ne les reverrez jamais, nous est-il dit dans Exode. Deuxième point. Christ est entré avec son propre sang dans le sanctuaire céleste, pour réaliser une fois pour toutes l'expiation des péchés. Lévitique 16. Alors, il faut bien se dire que là encore, on doit aller dans Lévitique. Lévitique nous dit comment, ce qu'était cette fête des expiations, Yom Kippourim. Le souverain sacrificateur faisait un sacrifice pour lui, pour sa famille, pour le peuple, pour le tabernacle, pour tout. Et à la fin des fins, il rentrait dans le lieu très saint. C'était la seule fois de l'année où il rentrait. Et il mettait du sang devant lui parce que sinon, il risquait de mourir. Aujourd'hui, Jésus a fait la même chose avec son sang. Il est rentré dans le lieu très saint, une fois pour toutes. Un juif qui n'était pas là ou était impur le jour de Yom Kippourim, eh bien, il fallait qu'il attende un an. Sinon, toute cette faute volontaire, elle lui était imputée. Nous, nous n'avons pas cela. Il faut saisir. Ensuite, troisièmement, je vous lis, si tu peux, voilà. Justin Dillehaye écrit, notez ceci. Notre salut éternel a été garanti non pas simplement par la mort de Jésus sur la croix, mais par l'entrée de Jésus au ciel au moyen de son propre sang. En bref, pas d'ascension, pas de salut. Ce que je viens de vous expliquer, il fallait que le sang rentre jusque dans le sanctuaire céleste pour que notre salut soit assuré. Donc on voit toute l'importance de l'ascension et on voit, excusez-moi, on voit pourquoi les premiers chrétiens ont dit « il est monté au ciel ». Je continue. C'est là le point le plus difficile. Quand je suis tombé sur celui-là, je dois vous dire. Ce n'est pas à nous que Christ présente ses blessures pour nous rappeler que le mal, pour nous rappeler le mal que nous avons fait, mais au Père, pour lui demander sa miséricorde pour nous. Jésus a emmené sa réconciliation au ciel afin d'être notre médiateur éternel. La croix n'est pas seulement un événement historique, elle est une œuvre du Christ qui demeure une réalité présente dans les lieux célestes. Son sang est pour toujours le sacrifice pour le péché offert à Dieu le Père pour l'éternité. Et là, je vous rappellerai, je sais que c'est Élie qui l'a dit, mais la croix est là quand je me sens nul. À propos de Pierre, quand Jésus l'a repris trois fois après, la croix est là quand je me sens nul. C'est au Père qu'il présente ses blessures. C'est devant le Père. Le Père, à tout instant, il voit notre péché. Mais il ne le voit pas en tant que péché. Il le voit en tant que, ah oui, il a péché, mais la condamnation est levée à cause du sang. Ensuite, comme le dit Andy Velasquez, Thornton, c'est le meuble qu'on ne trouve pas dans le tabernacle, c'est une chaise. Hein, quand relisez Exode et regardez dans le tabernacle, et vous verrez, il n'y a jamais de chaise là-dedans. Et vous savez pourquoi il n'y a pas de chaise dans le tabernacle ? Parce que les sacrificateurs devaient sans cesse refaire et refaire des sacrifices. Quand c'est Jean-Luc Trabier qui est venu, c'est Jean-Luc ? Frédéric, oui, j'arrange toujours les noms des gens. Quand il est venu, il nous a montré le circuit que devaient faire les sacrificateurs. Ils tournaient tout le temps. Et je me lave les mains, et je m'en vais, et je vais récupérer le sang, et je vais verser le sang sur les cornes, et je recommence. Ils ne pouvaient pas rester dans le lieu très saint pour la bonne raison qu'ils devaient sans cesse recommencer, parce que sans cesse ils péchaient. Donc là, Christ, lui, a pu. Il a amené le sacrifice parfait et le sang de ce sacrifice. Et il a donc pu s'asseoir sur le trône parce qu'il avait fait. Enfin, et une chose, ça m'a beaucoup réjoui, ça, nous ne sommes plus condamnés pour les péchés que nous combattons. Quelquefois, on a des péchés, alors ne les appelons pas mignons, mais ça revient. Je suis gourmand.
Oh, c'est pas grave.
Mais oui, mais moi, ça commence à peser sur ma conscience ou autre chose. Et Gérald Bray dit « Nos péchés ne sont pas détruits au point que nous puissions prétendre être parfaits, car Christ se tient toujours à la droite du Père pour intercéder pour nous. Mais ils sont cachés dans les profondeurs de l'amour miséricordieux du Père. » Hier, j'ai péché, même si je ne m'en suis pas rendu compte. Aujourd'hui, même si je venais prêcher, ça ne m'a pas empêché. Certainement, j'ai péché. Et demain, à moins que Dieu m'ait enlevé, je peux vous assurer d'une chose, je pécherai parce que je suis pécheur. Et malheureusement, pour vous tous, vous êtes pareils que moi. Mais Christ a pleinement pourvu. Et il a pleinement pourvu, même pour tout ce contre quoi nous combattrons jusqu'au dernier souffle. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors oui, je peux que vous encourager à combattre de toute votre force contre vos péchés récurrents. Mais ne perdons pas courage. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Effectivement. Enfin, il était indispensable que Jésus soit roi aussi. Après sa résurrection sur terre, Jésus n'était pas roi. Pierre avait eu beau reconnaître qu'il allait l'être, qu'il était le fils de David, etc. Il ne l'était pas. Parce que il était plénipotentiaire, c'est-à-dire il avait les pleins pouvoirs. Rappelez-vous, Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné. Dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir plénipotentiaire, mais pas encore roi. Pour être roi, il y a une procédure. Je vais vous la lire. Elle n'est pas très longue, c'est dans 1 Roi 1 et 33 à 35. Alors, le roi, c'est David, ordonna, « Rassemblez tous mes serviteurs, faites monter mon fils Salomon sur ma propre mule et conduisez-le à la source de Guillon. Là, le prêtre Tsadok et le prophète Nathan lui conféreront l'onction pour l'établir roi sur Israël. Vous sonnerez du cor et vous crierez « Vive le roi Salomon !» Vous remonterez de la source derrière lui. Il viendra siéger sur mon trône et régnera à ma place, car c'est lui que j'ai choisi pour être le conducteur d'Israël et de Juda. On voit que c'était très, très organisé. De même, on a lu tout à l'heure que c'est Dieu qui dit à Jésus, viens siéger à ma droite. Non seulement c'est un ordre, mais en plus dans le texte, Jésus ne fait rien. Il est enlevé. Le bouton de l'ascenseur, il est en haut, il n'est pas en bas. Ce n'est pas Jésus qui décide de partir. C'est le Père qui l'enlève. Et là, vous voyez, il y a toute une cérémonie. Le dernier chant qu'on a chanté, je me suis souvent posé la question. Alors, c'est juste une idée en l'air que j'ai comme ça. Quelquefois, faut avoir des idées en l'air. Et pourquoi il y a toujours 10 jours entre l'ascension et la Pentecôte? Et le couronnement. Et le couronnement. Les anges, les 24 êtres vivants qui jettent leur couronne, on l'a chanté tout à l'heure. Donc, Jésus est enlevé sur ordre du Père. Et je vous lis ce qu'Alfred Kuhn désigne, il est parlé de la nuée dans la transfiguration, Étienne nous parlait des nuages, il disait il y avait moins de vent qu'aujourd'hui, mais c'est pas tout à fait comme ça qu'Alfred Kuhn le voit. La transfiguration, l'ascension telle qu'elle est décrite ici, c'est-à-dire dans le passage d'Actes, et la parousie, ce qui veut dire le retour de Jésus, sont trois manifestations successives de la gloire divine du Christ aux hommes. Ainsi, dans les derniers moments où les apôtres ont vu leur Seigneur avec leurs yeux extérieurs, il leur fut donné une théophanie, donc une apparition de Dieu dans la gloire. Jésus est enveloppé dans la nuée de la présence divine. Il a été intronisé par le Père. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir en Christ. Lorsqu'il l'a ressuscité, l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds et Christ, qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Fort de cette royauté, Jésus couronné s'occupe de chacun de ses frères. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais lui, rempli, c'est Étienne, du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors il s'écria, écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Vous allez me dire, attention Michel, c'est du narratif ça. Ça nous raconte une histoire. L'histoire d'Étienne. Moi, j'ai jamais vu le ciel ouvert. Oui, mais moi non plus, je vous rassure. Cependant, nous avons plusieurs endroits où nous voyons comment il s'occupe de chacun de ses frères. C'est la promesse que je veux souligner. Et voilà comment elle s'applique pour le premier martyr. C'est qu'il est avec nous tous les jours jusqu'là pour que Étienne tienne, je dirais jusqu'au bout, et ben, sûrement il fallait cette apparition et il l'a vue dans la gloire, prêt à l'accueillir. Et je vous souligne au passage, Jésus n'était pas assis sur le trône, mais debout. Jésus, couronné, souffre avec son Église. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Demanda-t-il. La voix reprit, je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Nous prions pour l'Église persécutée, nous avons raison. Mais Jésus, là, il est avec son Église persécutée. Il est l'Église persécutée. Et quand l'Église est persécutée, c'est lui qui est persécuté. C'est son rôle d'intercesseur dont on a parlé tout à l'heure. Il le prend vraiment très au sérieux. Enfin, alors, certainement, Jésus couronné reviendra chercher son Église pour la glorifier. Alors, c'est... Si je voulais être... Je dirais que c'est un peu... planant, cette prédication, hein. Jésus s'en va dans les airs, et puis pour nous, qu'est-ce qui nous reste? Plusieurs applications. Jésus a emmené notre humanité auprès du Père. En lui, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. C'est Éphésiens 1, verset 3. En lui, nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Il s'agit de tourner les yeux vers lui à un moment donné Oui, cette vie est difficile. Oui, cette vie est dure à cause du péché. Alors, 5 applications. 1, la Bible est Jésus-Christ avec nous tous les jours. La Bible, ce que vous avez là, j'ai lu en préparant ce message, un théologien très sérieux qui disait, aujourd'hui, il faut considérer que la Bible, c'est la même chose que Jésus quand il était avec ses disciples. C'est pour nous la même chose. Donc la Bible et Jésus-Christ avec nous tous les jours. Tu veux passer un moment avec Jésus? Lis la Bible, chante la Bible, prie la Bible, distribue la Bible, mais à tout moment, quand tu es là, témoigne de la Bible. Deuxièmement, Jésus, parce qu'il intercède pour nous, Jésus nous sanctifie. Il accomplit la parole de Lévitique, vous serez saints parce que je suis saint. Et notre sanctification consiste principalement à nous rendre sensibles à l'horreur de notre péché et à nous faire aspirer au ciel. Troisièmement, parce qu'il est roi des rois, Jésus nous appelle d'une manière irrésistible. Et l'œuvre qu'il a commencée en nous, il l'achèvera. Si tu n'as pas la conviction de cet appel, si vraiment tu es interpellé et tu te dis, mais ces gens qui croient, ces gens qui chantent, ces gens qui prient, il y a quelque chose qui m'interpelle. Eh bien, je t'invite juste à être pauvre, parce que Jésus lui-même a dit, heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. C'est aux pauvres que le royaume des cieux est promis. Sois pauvre et dans ton cœur, avec une personne que tu connais, dis simplement que tu le cherches et tu le trouveras. C'est une promesse qu'il a faite. Parce qu'il est monté au ciel, il est avantageux que je m'en aille et que je sois pour toujours avec Christ. C'est ce que dit l'apôtre. C'est ce que nous avons du mal à comprendre. Mais j'ai encore tellement de choses à faire. Oui, mais je peux vous dire. Pour moi, ça fait quelques années, à chaque fois que je dis ça à quelqu'un, on me dit, oui, mais tes enfants, tes petits-enfants, ta maison, ta femme, oui, mais Christ est de loin le meilleur en toutes choses. Il est avantageux que je m'en aille, mais parce que du ciel, il a envoyé le Saint-Esprit pour que je sois son témoin. Il est utile que je reste sur terre jusqu'à ce que j'aie achevé la course. Enfin, comme Étienne, je voudrais vous rappeler ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. C'est notre plus grande espérance. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, Christ est en nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Mais c'est qu'une espérance. Une fois qu'il reviendra, alors ce sera la gloire pleinement. Et c'est sur ce mot que je voulais vous laisser.